Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Les temps changent, mais les hommes demeurent. Leurs émotions, en fait, sont de toutes les époques. Le répertoire de Guy Béard le prouve. Ses deux filles, Emmanuel Béard et sa sœur, Ève, ont donc décidé de le remettre en lumière avec un double album hommage, dans lequel les artistes de toutes les générations s'emparent de ses chansons avec une joyeuse liberté. Ce tribute a pour titre « De Béard à Béard » avec un S. La promenade s'annonce très belle.
Europe 1.
Avec Emmanuel. Bonjour et bienvenue Emmanuel Béard.
Bonjour, bonjour Isabelle.
Alors cher Emmanuel Béard, jadis, avec Brel, Léo Ferré, Brassens, Ferrat, mais aussi Bécaud et Aznavour, votre père était célébré comme l'un des piliers de la chanson française, à la fois noble et populaire, poétique et intemporel. On lui doit l'eau vive, Balcher temporel, il n'y a plus d'après, à Saint-Germain-des-Prés, les couleurs du temps, le grand chambardement, vive la rose, celui qui dit la vérité, v'là le joli vent. Bref, ces chansons sont intemporelles, mais lui, Guy Béard, s'est effacé de son vivant, refusant d'apparaître, de communiquer sur lui. Or, voilà un double album qu'il remet en lumière par la voix de 20 artistes qui comptent aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va en parler, mais d'abord, Emmanuel, pourquoi parlez-vous de votre père, toujours en disant Guy, et presque jamais papa ?
Alors, c'est tout simplement pour le remettre au premier plan. C'est-à-dire que je suis là pour Guy Béard, donc auteur, compositeur, poète. Papa, c'est très intime, c'est dans l'intimité. Donc, c'est une façon peut-être aussi de me protéger un tout petit peu. Il est mort en 2015 et j'essaye peut-être aussi de me protéger un tout petit peu du chagrin que ça a causé.
Alors, des générations d'enfants ont appris l'eau vive à l'école. Je crois d'ailleurs que c'est la première chanson que j'ai apprise. Voilà, celle de votre père. Et vous, effectivement, c'est la première chanson que vous ayez apprise. Et la maîtresse ignorait que vous étiez la fille de l'auteur, car vous viviez dans le Sud avec votre maman. Et à cette époque-là, vous ne portiez pas le nom de Béard.
Je portais le nom de ma mère pour éviter justement que les gens sachent que j'étais la fille de quelqu'un de connu. Parce qu'à l'école, c'est toujours embarrassant. Et effectivement, la maîtresse, ça c'était je crois en primaire, a commencé à vouloir m'apprendre l'eau vive,
ouais.
Il a fallu que je fasse semblant de ne pas connaître les paroles alors que je la connaissais par cœur. Et ça a été pareil pour les couleurs du temps. Alors ça c'était en sixième, donc j'étais encore plus grande. Et c'était très 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 particulier de faire semblant, de ne pas savoir la chanson. Voilà.
Extraordinaire. Bon, Emmanuel Béard, si Charles Aznavour ne vous avait pas convoqué, votre sœur et vous, après la mort de votre père, pour vous demander ce que vous comptiez faire de l'œuvre immense qu'il laissait, est-ce que cet album hommage aurait vu le jour ?
J'avais dans la tête quand même déjà de faire plusieurs objets autour de mon père. Mais c'est vrai que Charles et Aznavour et mon père avaient un lien très 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 fort et très fraternel. Sans doute aussi dû à des enfances nomades, des blessures d'enfance aussi, certainement. Enfin, c'est de là partager quelque chose de très fort. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, quand j'ai eu Charles en face de moi, Charles Aznavour, je me suis dit, on ne peut pas ne rien faire, il a raison. Comme on joue des auteurs connus, c'est mon métier, quand on joue du Molière ou du Shakespeare ou du Marivaux, c'est une façon de garder l'œuvre vivante que de la proposer à d'autres pour la continuer à la faire vivre. Donc c'est vraiment l'impulsion de ce tribute.
Aznavour avait choisi de chanter « Il n'y a plus d'après ». À Saint-Germain-des-Prés,
et oui.
C'est Vianney qui reprend ce titre sur l'album, n'est-ce pas ?
Oui, oui, oui. On avait le choix, où on faisait le deuil vraiment de cette chanson parce que Charles était parti.
Quelques jours avant de devoir enregistrer ?
Très peu de jours, très très peu de jours, ouais. Je crois 4 ou 5 jours exactement. Moi j'avais même répété avec son pianiste, parce que je devais le faire en duo avec lui.
Oui.
Donc ça je l'ai presque oublié d'ailleurs. Mais donc la mort de Charles Aznavour, ça a été un choc. Parce qu'il est l'initiateur, il est celui qui nous a regardé dans les yeux pour nous dire « Allez-y, trouvez une maison de disques, nous donner le courage de le faire ». On était totalement néophytes, ma sœur et moi.
Alors justement, vous étiez néophyte, Emmanuel Béard. Il y a autant de règles juridiques qu'artistiques pour faire vivre un patrimoine musical. Qui est le manager? Qui est le boss de cette entreprise énorme qui a nécessité de racheter des droits, monter des boîtes de production, aller voir des maisons de disques, solliciter des artistes, des chaînes de télé, puisque un documentaire qui remonte le fil du temps jusqu'à la vie au Liban de votre père va suivre. Donc même si c'est une affaire de famille, c'est vous le boss officiel dans cette aventure?
Non. Si je dois vraiment le dire et être tout à fait honnête, c'est l'homme avec qui je vis, qui est devenu une sorte de fils spirituel. Et c'est lui qui nous a dit, c'était très frappant, quand on se retrouvait dans cette grande maison de 1200 mètres carrés avec des cartons, des bobines, toute la vie de mon père, il nous a dit, j'ai l'impression que Béar est une énigme, il faut la résoudre. Et ma sœur et moi, on s'est regardés, on s'est dit, c'est sans doute ça. Donc on a repris les maisons de production, donc Bienvenue, que mon père avait créé, puisqu'il était le premier à s'autoproduire.
Artiste indépendant, absolument.
Artiste indépendant, donc ses éditions, ses productions. Et on a tout délocalisé, puisque la maison de Garches n'existe plus, enfin elle n'est plus à nous. On a tout délocalisé et on a monté notre société de production, donc Bienvenue.
Mais bon, il a laissé dans son incroyable domaine de Garches, où venaient d'ailleurs Aragon, Mitterrand, Simone Veil, Brassens, Moustaki, Pompidou, il a laissé votre papa des archives effectivement sur 1200 mètres carrés, une véritable folie à trier avec des bandes enregistrées, des bobines, des textes, des dossiers de toutes sortes. Vous avez procédé comment? On commence par quoi dans ce cas-là?
Moi, je n'ai pas réussi à aller dans cette maison pendant un certain temps, donc c'est vraiment ma mère. Et encore une fois, l'homme avec qui je vis, qui ont fait le travail. Ma mère, j'ai dit ma mère. Non,
oui.
ma sœur. Ah, parce que ma mère traînait là aussi de temps en temps. Ma mère adore les... Voilà, elle avait un lien fort avec mon père et elle adorait nous accompagner. Mais c'est vraiment ma sœur et voilà, principalement.
Mais alors, quand il s'est agi d'imaginer donc l'album Hommage, cette fois-ci, il a fallu choisir des chansons parmi plus de 400 titres, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Choisir, c'est écarter. Vous teniez à ce que les artistes qui sont sur cet album Hommage s'emparent de titres connus ou pas forcément?
Non, pas forcément. Nous, on avait pensé aux artistes, donc très précisément, c'est pas un hasard, enfin, c'est vraiment ces gens-là et pas d'autres. Et puis, on avait attribué comme ça une chanson à chacun. Et en fait, beaucoup d'artistes, ça a commencé par Catherine Ringer qui est revenue en disant « Mais moi, je pense aux souliers, j'adore cette chanson, Dans la neige, il y avait des souliers, qui est une merveilleuse chanson sur la solitude d'ailleurs. Et donc, Clara Luciani est revenue avec Chanson pour ma vieille, qui est une chanson que Guy a écrite pour sa mère. Et Pomme est arrivée avec une chanson que je ne connaissais pas de mon père, qui est Ceux qui s'aiment. Akhenaton, c'était évident pour moi que c'était Qui suis-je ? On n'a pas mis la vérité parce que la personne à qui on avait pensé n'a malheureusement pas pu le faire. Voilà, donc personne n'était remplaçable en fait aussi.
Alors vraiment, toutes les générations sont au rendez-vous dans cet album de Béar à Béar. Effectivement, vous avez cité Clara Luciani comme Catherine Ringer, Vianney comme Souchon, Raphaël comme Akhenaton, les Brigitte comme Maxime Le Forestier ou encore Carla Bruni comme Christophe. Et Christophe, dont c'est le tout dernier enregistrement, n'est-ce pas Emmanuel Béar? J'ignorais qu'avec Christophe, vous entreteniez une longue et ancienne amitié?
Ouais, c'était un copain. Voilà, c'était pas un ami dans le sens où je ne le voyais pas tous les jours, mais
quand vous vous croisiez,
messages...
c'était intense.
Ah, oui. Ah non, non, quand on se croisait, il nous est arrivé de une fin de nuit comme ça à Cannes de chanter ensemble autour d'un piano et plusieurs fois dans ma vie, je me suis retrouvée. On a un ami commun aussi, donc je me suis retrouvée plusieurs fois. Et surtout, on s'envoyait des petits mots pour savoir comment on allait. Et le jour où j'ai réentendu vous la chanson, Ce que j'aime en vous, c'est vous, qui est une chanson très simple que mon père a écrite sur le comptoir d'un bar parce qu'il n'y avait pas de fleurs pour arriver à un rendez-vous avec la maman d'Ève, ma sœur. Donc, il a écrit cette merveilleuse chanson. Et donc, j'ai envoyé cette chanson à Christophe en lui disant « Voilà, je travaille autour de mon père et écoute cette chanson. » Et il m'a renvoyé, sans même vraiment lui parler d'un tribute, c'était étrange, il m'a renvoyé un petit mot très très rapidement en disant « Je me mets au travail. » Et il l'a enregistré en une semaine. Voilà. Et chaque chanson a son histoire, comme ça.
Et on fait une pause très courte avec Emmanuel Béar. On la retrouve tout de suite.
Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. L'une des filles de Guy Béar se raconte au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Emmanuel Béar est donc avec nous jusqu'à 16h.
Ça pourrait être une formule, ça ne l'est pas. De Guy Béar, Sa fille, Emmanuelle, dit « Plus qu'un père, c'est un repère ». Oui, il ne fallait donc pas laisser s'endormir le répertoire du poète. Un double album hommage vient de paraître, de Béart à Béart. Version libre, est-il précisé justement sur la pochette. Alors, cher Emmanuel Béart, la plupart des enfants aujourd'hui ignorent le vertige de l'ennui car leur univers est peuplé par les réseaux sociaux et des applications en tout genre, n'est-ce pas ? Ils sont connectés, les enfants d'aujourd'hui. Vous, quand vous vous retrouviez dans la propriété de Garches, donc de votre papa, votre père, avec lequel vous ne viviez pas, puisque votre maman était séparée de lui, votre père laissait toujours tomber à un moment donné la phrase rituelle « Allez, va t'ennuyer dans ta chambre ». C'est un mode d'éducation qui a fonctionné avec vous, parce que l'ennui, c'est une sorte de miroir.
Oui, mais déjà, moi, je vivais dans le midi, donc on était connectés à rien. Dans le midi, une chose qui continue à me servir aujourd'hui, je pense qu'on doit s'interroger dans notre rapport au monde, à la nature. Et je regrette qu'on enferme les enfants dans des classes pour leur apprendre l'alphabet, l'écriture et les mathématiques. Je trouve que cette connexion, elle doit se faire dès l'enfance. Donc moi, j'avais déjà ça chez ma mère. Je vivais la plupart du temps dans les champs et on inventait, on faisait des cabanes. Donc, quand je suis arrivée chez mon père, c'est vrai que c'était Paris, que j'avais envie de découvrir Paris, j'avais envie de découvrir le cinéma. Et puis, surtout, pendant l'adolescence, j'avais besoin d'être en groupe, comme beaucoup de jeunes. J'adorais l'idée de sortir. Et mon père m'a... Et ça reste inscrit en moi. C'est-à-dire que mon père me disait « Apprends à t'ennuyer. Ne cherche pas toujours l'équipe, les groupes, les copains. Essaye de te concentrer et de voir ce que tu as à l'intérieur de toi. » Et à force de rester dans cette chambre, effectivement, j'ai commencé à vraiment apprendre à écrire. J'écris beaucoup, moi, j'écrivais beaucoup, à faire des cahiers, à lire. Il avait mis, je me rappelle, L'écume des jours de Boris Vian, mais j'étais toute jeune, je devais avoir 11 ans quand j'ai lu L'écume des jours. Donc, il y a un rapport au silence, surtout. Peut-être plus qu'à la solitude, au silence. Et ça, c'est une chose que nos mômes n'ont pas, non plus.
Alors, vous êtes donc une enfant du Sud qui a grandi face à la Méditerranée, du côté de Cogolin, dans une fratrie recomposée autour d'une maman très militante. Et vous dites, Emmanuel Béart, ma mère m'a appris à me battre, mon père m'a enseigné les raisons pour lesquelles me battre.
Oui, non, alors je regrette ce que j'ai dit, en fait, parce que...
Alors, expliquez-nous.
Non,
c'est
non,
pas parce exactement que... ce que vous souhaitiez
non,
livrer.
Non, parce que ma mère m'a appris à me battre, mais elle a forgé une conscience aussi citoyenne et politique. Après, c'est vrai qu'ils se sont formidablement complétés. Mon père est celui qui chante « Je suis de toutes les couleurs et surtout de celles qui pleurent ». La couleur que je porte, c'est surtout celle qu'on veut effacer. Et ma mère m'a appris à aller sur le terrain. C'est-à-dire que mon père, c'était le monde des idées et ma mère, le monde du terrain.
Donc vous l'avez... Dès le plus jeune âge, suivi votre maman, par exemple, dans des manifestations.
Oui, elle m'a fait manifester beaucoup. Je ne savais pas toujours pourquoi, pour être très honnête. Mais oui, et puis elle avait des réunions de cellules. Elle était inscrite au Parti communiste. Et puis à l'époque, je dois dire que j'ai beaucoup appris, moi, de tous ces vieux communistes que j'ai rencontrés. Des gens très intègres, dans le fond.
Alors tout ça, ça fait une enfance très riche et en même temps un peu schizophrénique parce que... On l'a dit tout à l'heure, au collège, vous étiez une enfant anonyme qui ne portait pas le nom de Béart. Et puis, chez votre père, vous déjeuniez avec François Mitterrand, avec Brassens. Vous nagiez dans la piscine avec Louis Aragon. Vous dîniez avec Georges Pompidou. Vous les avez beaucoup observés, ces grands personnages familiers, en fait, de l'univers de votre père.
Je ne sais pas si je les ai beaucoup observés, mais en tout cas, je les ai beaucoup entendus. Donc, je serais incapable d'analyser vraiment mon rapport. C'est-à-dire que pour moi, la notoriété ne voulait rien dire, si ce n'est que tout d'un coup, quand je voyais Aragon, je me disais, mais c'est pas possible. Aragon est mort, je l'apprends à l'école, j'apprends ses poésies. Donc il y avait une sorte effectivement, où Pompidou, qui était à l'époque président de la République, Mitterrand aussi d'ailleurs. C'était étrange, et je me souviens effectivement d'avoir une ou deux fois essayé de dire, j'ai vu un tel, et on me disait, oui, c'est ça, et moi j'ai vu le pape. C'est-à-dire que les gens ne croyaient pas du tout. C'était, de toute façon, j'étais dans une ambiguïté, puisqu'à partir du moment où je ne portais pas le nom de mon père, c'était improbable que je rencontre ces gens-là.
Emmanuel Béart, qui a décidé de vous mettre la première fois devant une caméra à l'âge de 8 ans pour un film de René Clément, puis à l'âge de 12 ans dans un film de Jean Pourtalès ? C'est un hasard ou pas ?
Y a pas René Clément, c'est ma mère qui m'a fait faire le casting parce que je crois qu'il cherchait quelqu'un qui ressemblait à Mia Farrow.
Ouais. Et vous ressembliez à Mia Farrow enfant ?
J'en sais rien, je sais pas, j'avais plein de taches de rousseur partout et des grands yeux bleus, donc j'imagine que je devais, oui, ressembler à Mia Farrow enfant. Donc ça c'était, voilà, j'ai juste le souvenir d'avoir mangé 15 tartes et d'avoir été dégoûtée par le tournage. C'est tout ce qui me reste comme souvenir.
Et à 12 ans ?
Et à 12 ans, c'est Pourtalet chercher ma mère jeune.
Oui.
Et je ne ressemble pas du tout à ma mère, en plus c'est étrange parce que ma mère est très brune, avec la peau très mate, on dirait une gitane, une belle gitane.
Mais il y a le même regard.
Mais peut-être il y a quelque chose, oui. Et donc,
parce que votre maman avait tourné avec Godard.
Oui, elle n'a pas choisi vraiment, elle a détesté même ce métier. Elle a détesté ce métier, tout ce qui l'entourait, c'était vraiment pas son chemin à elle. Donc elle est très vite partie.
Votre père vous prédisait une carrière d'actrice à un âge où vous rêviez plutôt vétérinaire.
Il paraît qu'il majorette en Australie.
Majorette en Australie. Alors oui. Ça, je trouve ça merveilleux parce que
ça, c'était ma grande ambition.
C'est un concept surréaliste formidable. Et il paraît que votre papa vous avait présenté un agent d'ailleurs quand vous aviez 12-13 ans. Or, à l'âge de 17 ans, Emmanuel Béart, vous êtes parti au Canada pour suivre vos études et là, franchement, où le destin est plein de malice, c'est qu'au Canada, par hasard, vous avez rencontré Robert Altman, tout de même réalisateur nommé plusieurs fois aux Oscars, Altman, qui vous a engagé pour un film.
Oui,
alors vous ne pouviez pas échapper à votre destin.
Ça semble être le cas, effectivement, c'était très étrange. Je suis partie à 15 ans à Montréal, et dans une boîte de nuit, j'ai rencontré son directeur de casting qui m'a tout de suite repéré, qui m'a présenté Altman le lendemain. Je ne savais pas du tout qui était Altman et j'ai pas eu de culture cinématographique moi. C'est vrai que mon père me faisait regarder des films, mais j'étais ailleurs. J'avais ni cette ambition-là, ni cette culture-là. Donc pour moi, Altman c'était personne. Et donc j'y étais très décontractée et effectivement il m'a engagée. Et le film ne s'est pas fait, mais c'est étrange quand même parce que voilà une première rencontre et puis ensuite je rencontre le directeur de Vogue américain dans la rue à New York et je fais des photos avec Avedon et c'est comme si petit à petit, comme ça.
Pourtant, vous en avez mis des milliers de kilomètres.
Mais j'en avais mis, oui.
Ben
oui.
France et vous,
je ne pouvais pas m'attendre à rencontrer Altman dans une boîte de nuit et à rencontrer le directeur de Vogue sur un trottoir de New York. C'est évident. Puis j'avais 15 ans. J'étais complètement. Je n'étais pas du tout là-dedans.
Donc, quand on rayonne, on rayonne. Voilà.
Je ne sais pas ce que c'est.
Alors, de retour en France, Emmanuel Béart, à 20 ans, vous êtes inscrite au cours d'art dramatique donc de Jean-Laurent Cochet. Et alors, il paraît que vous avez détesté ces méthodes d'enseignement. Pour quelle raison ?
Alors maintenant, il est parti au ciel, alors je ne vais pas taper dessus, c'est un peu difficile, mais j'ai détesté l'homme et j'ai détesté surtout la façon dont il me regardait. Un jour, il m'a dit « Ce n'est pas parce que tu es la fille de Guy Béart que tu vas faire quoi que ce soit. » Et c'était très violent et à partir de ce moment-là, c'était fini. Je suis restée très peu de temps d'ailleurs.
Oui.
Où je me suis fait virer, peut-être, je sais plus. Où
vous êtes fait virer volontairement.
De toute façon, je me suis fait virer tellement d'écoles, peut-être que je me suis fait aussi virer de l'école de Cochet. Je me souviens plus, mais j'ai rencontré des gens qui voulaient être acteurs, qui étaient des gens formidables, mais Cochet, non.
Mais c'est incroyable. Donc il vous dit, ça n'est pas parce que tu es la fille de Guy Béart que tu seras actrice. Et l'année suivante, vous tournez votre premier film, Un amour interdit, qui vous vaut d'être nommée au César du meilleur espoir féminin.
Absolument. Et d'ailleurs, alors ça c'est aussi un hasard, c'est-à-dire que j'ai été faire des... Moi je faisais beaucoup de figuration pour gagner un peu ma vie, donc j'ai été repérée en faisant de la figuration à Pigalle pour je ne sais quelle émission de télé.
Oui.
Et on m'a fait faire le casting et j'ai été prise tout de suite. Et pour vous dire à quel point j'étais pas docile, c'est que je me suis fâchée avec le metteur en scène et je voulais plus qu'il me parle en direct, donc j'avais quoi, j'avais 19 ans, 20 ans, je voulais plus qu'il me parle, donc j'avais dit non, mais je le trouvais pas clair dans son regard et je lui avais dit maintenant si tu veux t'adresser à moi, tu parles à ton premier assistant, il viendra me dire ce que tu as à me dire. Donc j'étais pas du tout docile.
Quelle autorité du haut de vos 17 ans. On retrouve tout de suite Emmanuel Béart.
Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet qui retrace donc cet après-midi le parcours d'Emmanuel Béart. La comédienne est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1.
Il y a plein de façons d'être la fille de son père. Emmanuel Béart l'est de la plus jolie façon, en remettant en lumière l'œuvre de celui-ci au travers d'un album hommage conçu avec une irrévérence pleine de tendresse. Il a pour titre « De Béart à Béart » avec un S. Emmanuel Béart, est-il vrai que, pour Manon Dessources, film dont l'interprétation du rôle-titre vous a valu un César. Est-il vrai que Claude Berry, au départ, ne vous imaginait absolument pas en bergère caracolant dans les collines. Et donc, vous avez refusé au casting?
Oui, c'est vrai. Il m'avait refusé. Et il m'a repérée parce que j'étais nommée pour un film d'Edouard Molinaro qui s'appelle L'amour en douce.
Oui.
Et il n'avait pas vu le film. Il avait une image de moi déjà, c'est étrange. Et on a déjeuné l'un en face de l'autre. Et pendant tout le repas, il m'a regardée. Je ne savais pas qui c'était, mais il me fixait. Et le lendemain, j'avais sa directrice de casting au téléphone qui me disait... Et c'est étrange parce que c'était une autre jeune femme qui avait été engagée pour Manon des Sources. Donc nos destins ont basculé à l'une et à l'autre.
Donc il avait vu vos essais et il
Non,
l'avait...
non, il m'a regardé
mais
manger.
Mais pour vous avoir écartée au départ du casting, quels étaient ses arguments?
J'étais brune, j'avais une allure plutôt sophistiquée dans le film d'Edouard Molinaro, donc j'ai dû faire de la presse assez sophistiquée. De toute façon, moi j'ai toujours cru qu'il fallait il fallait présenter bien pour faire de la promotion, pour faire des couvertures. Je savais pas qu'il y avait des modes, et donc il me trouvait un peu surfaite.
Et il a été fasciné soudain pendant ce déjeuner?
Oui, totalement. Et donc la directrice de casting m'a rappelé, le lendemain j'ai fait les essais, et il m'a posé des questions sur mon enfance, et il m'a dit « Vous venez d'où ?» Donc du Midi, évidemment. Puis des questions, est-ce que les animaux, est-ce que vous savez grimper aux arbres, est-ce que... Évidemment, j'avais fait ça toute ma vie, je savais très bien grimper aux arbres. Et ça a été une sorte de déflagration, parce que du coup, la jeune femme a été écartée du projet, et pour lui, ça a été moi et personne d'autre.
Et heureusement... En 1987, conjointement, Daniel Auteuil et vous, Emmanuel Béart, avez donc été récompensés d'un César pour avoir incarné cet amour impossible et maudit hein, dans le drame de Pagnol. Mmh. C'est quand même très très rare, et la symbolique est très forte pour un jeune couple d'acteurs qui en fait s'aimait dans la vie vraie,
ouais.
D'être récompensés l'un et l'autre au par un César,
moment.
Au même moment.
Et ce qui était assez beau, c'est qu'on était plus heureux pour l'autre que pour soi-même. En fait, j'ai même oublié l'émotion du César, moi, tellement j'étais heureuse que Daniel Auteuil soit enfin reconnu comme un formidable acteur. Donc c'était un peu, et lui était fou de joie parce qu'il
lui
disait
aussi,
mais
au départ,
ça va te lancer, tu imagines voilà. ce qui se passe, et je n'imaginais pas, non, je ne réalisais pas pour moi-même, je réalisais juste que après une sorte de léger mépris sur le choix des films de Daniel, tout d'un coup, il accédait à un nouveau monde.
Lui non plus, au départ, ne devait pas, en fait, être au générique du film, puisque c'était Coluche
c'était
qui avait
Coluche,
été choisi.
Crois, oui, c'était Coluche,
ouais.
Oui, oui.
Alors, j'ai revu une photo de votre père, Guy Béart, au dîner des Césars, si fier de sa fille. Vraiment, il est d'une gravité extrême sur la photo, totalement bouleversé. Mais comment a réagi votre maman, qui donc avait tourné avec Godard et qui se méfiait tant du milieu du cinéma? Elle s'est dit, ça y est, elle est sur la rampe de lancement et elle rentre dans un univers impitoyable, c'est ça?
Je ne sais pas exactement, je n'arrive pas à savoir ce qu'elle pense, ma mère, de tout ça. Je pense qu'elle aime mes films, je pense qu'elle respecte le travail que je fais. Et je pense qu'elle est peut-être un peu embarrassée de tout le reste, de l'image. De... Puis alors quand on lui dit, est-ce que vous êtes la mère d'Emmanuel Béart, là ça la met dans des états, c'est pas possible. Ça me fait beaucoup rire.
Avec Manon des Sources, l'Amérique s'est mise à vous faire les yeux doux. Parce
oui.
que ça a été, le film a rayonné sur la planète entière.
Oui, mais c'est pas avec Manon des Sources, hein, je pense pas. Je pense que c'est Mission Impossible, surtout, qui a été le déclencheur. Mais bon, un déclencheur qui a duré très peu de temps, puisque moi, je n'en avais pas envie. J'avais envie de rester chez moi.
Vous avez tourné le dos à Hollywood et vous avez refait vos valises.
Je ne sais pas si j'ai tourné le dos, en tout cas, je n'ai pas joué le jeu. Ça, c'est certain. J'avais besoin de... J'ai toujours été assez casanière, dans le fond. J'adore voyager, j'adore ça, j'adore découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Mais j'avais pas envie de partir de chez moi. J'avais déjà une famille, j'avais une petite fille, j'avais envie de ce cocon-là, ce qui me faisait autant de bien que ce métier.
Alors Emmanuel Béart, Claude Berry, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Claude Sautet, André Téchinet, bien sûr. Mais je pourrais aussi rajouter Régis Vernier, Raoul Ruiz, Olivia Sayas... Lequel, en fait, de ces pères de cinéma vous a peut-être le mieux observé, donc le mieux guidé pour devenir l'actrice que vous êtes?
Ils ont chacun d'entre eux joué des rôles différents pour moi et réveillé des choses différentes en moi. Les deux que je remercie le plus de m'avoir regardé sans filtre, de m'avoir accepté tel que j'étais et d'avoir filmé ce que je sans me déguiser, c'est sans doute Rivette et Sautet. Il
ouais.
Y a une simplicité dans la façon d'être filmé Voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de déguisement, il n'y a pas de... je ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Ils ont été assez loin dans ce que je suis. Après, j'ai une passion pour Régis Varnier, par exemple, parce qu'une femme française m'a emportée dans un voyage absolument extraordinaire. Mais j'adore Assayas aussi. J'aime Téchiner passionnément.
Parce que, on va tous voilà. les réciter.
Non, mais bon, voilà, je leur dois à tous quelque chose d'important. Donc, mais c'est, voilà, Sautier me manque, par exemple, vraiment. Claude Sautier et Jacques Rivette me manquent.
Il nous manque. On fait une pause courte, très courte, c'est promis. On retrouve tout de suite Emmanuel Béart.
Europe. Vous écoutez toujours Il n'y a pas qu'une vie dans la vie et à 15h34 on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec son invité. Aujourd'hui, la fille d'un poète qui offra à Juliette Gréco en 1960 le magnifique Il n'y a plus d'après.
Il y aura toujours un après à Saint-Germain-des-Prés. L'album Hommage à Guy Béart le prouve. Il est porté par les voix de 20 artistes de toute génération, de Vianney à Souchon en passant par Akhenaton, et il a pour titre De Béart. À Béart, je reçois sa fille, Emmanuelle Béart. Cher Emmanuel, on a le sentiment que depuis 10 ans à peu près, votre maison n'est plus le cinéma mais le théâtre. Vous êtes en effet associé au Théâtre National de Strasbourg, que dirige Stanislas Nordet. Vous participez donc au choix des projets, aux lectures, et vous assurez bien évidemment toutes les tournées des spectacles que vous jouez sous la direction de Stanislas, donc sur la scène de ce théâtre à Strasbourg. Donc c'est un engagement à plein temps. Mais d'abord, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de vous impliquer dans le théâtre subventionné, qui est un théâtre toujours ambitieux, intransigeant, et parfois pas forcément accessible... Au plus grand nombre.
Ah si, c'est le contraire.
Eh bien justement, je me fais l'avocat du diable, dites-nous.
Alors d'abord, c'est la rencontre avec Stanislas Nordet, qui aujourd'hui est directeur du TNS, mais justement, tout consiste chez Nordet à faire en sorte que les gens osent ouvrir la porte du théâtre, parce que très souvent, les raisons pour lesquelles les gens ne vont pas au théâtre, c'est parce qu'ils se sentent presque illégitimes à cet endroit-là, parce qu'ils n'ont pas eu la culture, parce que les parents ne les ont pas amenés, ou parce que donc tout consiste à, au contraire, créer des événements, organiser des lectures, créer des groupes de réflexion, et puis aller jouer aussi dans les écoles, aller jouer dans les prisons, aller jouer dans les banlieues.
Ce que vous faites ?
Oui, bien sûr, avec tous les spectacles, à chaque fois, on a des événements comme ça qu'on crée autour du spectacle en se disant, il faut qu'on aille vers les gens. Donc c'est vraiment un engagement. Nordet, c'est quelqu'un de très important dans le théâtre et c'est quelqu'un qui a vraiment une conscience citoyenne extrêmement importante. Donc c'est le contraire de justement, le théâtre subventionné, c'est la porte qui s'ouvre et la possibilité d'y entrer.
Ça, j'entends bien, mais avec des textes
alors,
souvent
non, mais justement,
très ambitieux.
C'est ça qui est ambitieux, mais surtout, ce qui est très intéressant aussi, c'est que une des ambitions de Nordet, c'est de prendre des textes contemporains, de faire jouer des artistes, des auteurs d'aujourd'hui. Et ça, c'est très ambitieux. Donc, c'est important d'être aussi le témoin de son époque.
J'entends bien. Alors, Emmanuel Béart, quand on choisit le théâtre public, il n'y a plus de star system.
Non.
Les comédiens, chaque soir, sont tous payés avec le même cachet.
Oui.
Et les noms apparaissent sur l'affiche par ordre alphabétique. Mmh. Vous arriviez d'une autre planète où se déroulaient les tapis rouges et où les actrices thésaurisaient sur leur couverture de magazine. En fait, il y a 10 ans, vous avez décidé de faire le parcours à l'envers.
Oui, je pense que j'ai eu envie réellement de redevenir anonyme. C'est étrange, mais c'est vraiment ça. C'est tout d'un coup, j'ai eu besoin d'anonymat. J'ai eu besoin de retrouver le sens aussi du travail. Et le théâtre, c'est beaucoup de travail. C'est l'apprentissage d'un texte, mais c'est beaucoup de répétition. C'est de la sueur, le théâtre. C'est difficile. C'est physiquement difficile. Et j'ai eu besoin de me frotter à ça, à nouveau. J'avais déjà fait du théâtre. Et très vite, après Manon, j'étais partie au théâtre, justement,
oui,
pour échapper...
sous la direction de Bernard Murat,
oui,
par exemple,
justement,
de Jacques Weber...
Pour échapper à la pression de Manon, ouais. J'étais très vite partie au théâtre, alors que c'est pas ma formation. Mais ça redonnait un sens à mon métier. Il y a des moments où on perd le sens dans ce métier. Il y a des moments où on ne sait plus pourquoi on y va.
Et alors, c'est un autre métier que vous avez appris parmi ces comédiens de la troupe du Théâtre National de Strasbourg ?
Non.
Comment vous ont-ils accueilli ?
Sans méfiance. Déjà, sans méfiance. Mais à partir du moment où, effectivement, on pose les règles. Les règles, c'est qu'il n'y a pas de vedette dans le théâtre subventionné. Donc, il y a un salaire commun. Ça, c'est très important. Ça veut dire que la personne qui vient et qui dit 3 phrases gagnera la même chose que celle dont on aurait entendu parler dans les journaux. Donc, voilà, donc ça redéfinit la place de chacun et ça assainit.
On est au service d'une œuvre.
D'une œuvre avant tout.
Dans ce théâtre-là, il est plus question de communion que de communication, c'est ça ?
Oui, d'ailleurs, on ne demande aucune promotion à partir du moment, effectivement, où c'est aussi une des choses qui, moi, me fait énormément de bien et qui m'a éloignée un peu, justement, de la presse et de tout ce qui entoure la notoriété. Parce que finalement, c'est pas du tout le métier qui est difficile à gérer, même s'il y a des âges un peu particulier, là, j'en traverse un, c'est-à-dire tout d'un coup, entre 40, 50 ans, 60 ans, il y a un moment donné où on ne sait plus très bien quoi faire de l'actrice, des femmes en particulier, d'ailleurs.
Toujours en 2020.
Alors que le théâtre, ouais, je pense, oui. Et je pense que le théâtre, par exemple, permet à une femme de passer les étapes et de vieillir. En tout cas, ça permet ça. Ça permet ces passages aussi.
Depuis 10 ans, Emmanuel Béart, avec Stanislas Nordet, s'enchaînent des expériences donc très très fortes. Vous êtes produite par exemple dans l'incroyable cour d'honneur du Palais des Papes, à Avignon, avec la nature qui s'invite à la représentation, le vent, le ciel d'orage, les oiseaux qui s'envolent des hauts murs et qui piaillent. C'est singulier de jouer sur une scène de théâtre avec la présence si forte de la vie vraie autour de soi.
Oui, alors dans la cour d'honneur, on est au contact de la nature de façon hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a les martinets qui passent, il y a le soleil qui se couche, il y a les bruits que font la ville au loin. Donc on intègre tout ça. Mais surtout, au théâtre, on est incroyablement vivant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en marche dans le corps, dans chaque cellule du corps. Donc il y a quelque chose de très physique entre la scène et la salle. Une vie que je n'avais pas ressentie depuis très très longtemps dans mon métier.
Alors, en vous entendant dire ça, je me demande si vous rêvez à nouveau de cinéma.
Oui. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai à nouveau expérimenté avec un premier film. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de liberté et une sorte de je sais pas, débarrassé de scories, débarrassé du problème du physique.
Là, vous parlez de vous.
Ouais,
c'est-à-dire
ouais.
Que vous êtes revenu au cinéma et...
Beaucoup plus libre.
Beaucoup plus libre.
Et grâce au théâtre.
Vous vous êtes affranchi de votre image ?
Je pense que enfin, c'est les autres qui ont une image
certes,
de nous.
Mais moi, on l'imprime sur la pellicule quand on est une actrice.
Alors non, parce que l'image de la comédienne sur la pellicule n'est pas la même que l'image du papier glacé, par exemple. C'est-à-dire que moi, j'ai enchaîné des rôles qui étaient tous très différents les uns des autres. On parlait de Rivette tout à l'heure, de Sauter, ou Les Enfants du Désordre de Yannick Bellon, ou le film... Enfin, à chaque fois, j'intègre un être qui n'a rien à voir avec celui d'avant. C'est la presse qui fait qu'on devient une image pour les gens. L'image, c'est plutôt la presse.
Donc, ces 10 années passées sur des scènes de théâtre, en fait, vous en faites un bien fou.
Oui.
Et on laissait à distance 1000 choses qui étaient désignées par la presse.
Enfin, certainement la presse, mais c'est aussi moi qui ai joué le jeu. Donc il n'y a pas d'accusation. C'est certainement... Il y a un moment donné, c'est assez joli dans le fond, si on y réfléchit, mais on incarne presque le fantasme qu'on a de soi-même et puis on se laisse partir dans quelque chose qui ne nous ressemble pas tellement dans le fond, mais qui est peut-être ce qu'on voudrait être. Et puis les autres jouent le jeu et puis hop, c'est parti.
C'est très joli, on incarne presque le fantasme qu'on a de soi-même. Alors, on s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Emmanuel Béart.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invitée, une comédienne engagée.
Elle est une femme libre, avec une grande conscience au monde, et ses choix de vie sont exigeants. Je reçois Emmanuel Béart. Cher Emmanuel, en septembre 2018, un mois après le mariage de votre fille Nelly avec Lucas, le petit-fils de Simone Veil, Simone Veil que vous croisiez d'ailleurs dans la grande propriété à Garges de votre père, eh bien un mois donc après le mariage de votre fille, à votre tour, vous êtes mariée. C'est pas si fréquent de se marier un mois après sa fille. Ça a été une fin d'été très singulière, pleine d'allégresse, pleine de serments.
Vous savez que je suis pas très douée pour parler de ma vie privée, donc
je sais d'ailleurs, on n'a vu aucun reportage, il n'y avait aucune photo, mais simplement...
Quelques photos volées, mais...
Alors, c'était sur les terres de votre enfance, donc dans le petit village de Gassin, près de Cogolin, voilà, face à la baie de Saint-Tropez. J'ai juste appris, et je trouve l'image magnifique, que les habitants du village, qui s'étaient réunis devant l'église, avaient laissé s'envoler des ballons rouges pour célébrer la passion de cette union. Donc, est-ce que vous répondrez juste à cette question ? Parfois, la vie est bien plus belle que le cinéma.
Ah là là, est-ce que la vie est plus belle que le cinéma ? Oui, pour moi, elle est plus... elle est plus importante, pour dire la vérité. Mais peut-être non. Je vais nuancer. Elle est devenue plus importante. Mais j'avais besoin de passer par le cinéma pour retrouver peut-être le goût de la vie. J'avais vraiment besoin de trouver des compagnons de route, comme ça, qui ont été les metteurs en scène, les uns, ces terres étrangères, qui ont été les metteurs en scène. J'avais besoin de voyager. Et j'ai trouvé le cinéma comme moyen de voyager. C'était magnifique.
Et c'était magnifique. Alors, je ne vais pas vous poser d'autres questions sur votre mariage, mais simplement, en 2015, on pensait qu'il aurait lieu ce mariage. Votre papa s'en est allé. Donc, il a fallu apprendre à vivre avec son absence. Et pareil pour votre absolument fascinante grand-mère d'origine grecque, qui elle est décédée à l'âge de 107 ans. Votre grand-mère qui a vécu chez vous ces dernières années. C'est magnifique d'avoir chez vous toute votre tribu d'amour, y compris votre grand-mère centenaire. Comment les convoquez-vous, les souvenirs des êtres aimés, Emmanuel Béart ? Y a chez vous plein de boîtes à secrets ou bien vous refusez la nostalgie ?
Je ne suis pas très nostalgique, mais ils sont totalement en moi. C'est ça qui est formidable et qu'on apprend avec la mort des gens, les deuils à faire, c'est que la personne continue vraiment à vivre à l'intérieur de soi, mais elle vit aussi dans chaque fleur, dans chaque rayon de soleil, dans chaque... C'est-à-dire que c'est une autre forme de vie ensemble. Mais moi, ma grand-mère, elle ne m'a jamais quittée, jamais. Mon père, c'est encore très récent, donc je ne sais pas quel chemin il va faire, il va parcourir en moi. Mais ma grand-mère, je sais qu'elle est partout.
Emmanuel Béart, votre père, Guy Béart, était originaire de Bulgarie, d'où sa famille avait été chassée. Il est né en Égypte, au Caire, et il a vécu les 17 premières années de sa vie au Liban. Votre grand-mère, elle, était grecque, née en Turquie. Est-ce que tout ça vous a donné un ADN de nomade, finalement, un rapport assez singulier à l'exil ? Parce que tout à l'heure, vous nous avez confié que vous êtes toujours en partance, vous avez besoin de bouger.
En tout cas, c'est évident que je sens tous ces sons différents en moi. C'est-à-dire que je me sens aussi grecque que française, les origines de mon père. Alors juste, je voudrais, ils n'ont pas été chassés de Bulgarie, mais ils sont partis de Bulgarie. Mon père est né au Caire et il a grandi au Liban. Disons que ma grand-mère disait une chose qui m'a beaucoup marquée. Elle disait, tu ne sais pas ce que c'est que d'être une déracinée. Et je pense que ça, c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marquée, qui explique certainement aussi beaucoup de mes engagements. C'est-à-dire que ce déracinement, cette façon d'être hors de chez soi, d'être chassé de chez soi ou de devoir partir de chez soi. Je n'ai pas encore tout analysé, mais c'est vraiment
quelque chose
qui...
Oui, parce que vous ne l'avez pas connu, mais ça
je
vous a
pas
irrigué.
Connu, mais ça m'a totalement irrigué. C'est mes racines dans tous les sens. C'est-à-dire que ce ne sont que des gens qui ont dû partir.
Et peut-être d'ailleurs les choix professionnels, parce que par définition, une comédienne est toujours nomade, puisqu'elle
Bien
passe
sûr.
D'un personnage à l'autre, d'un rôle à l'autre. Votre père avait raison quand il disait que, en fait, vous n'étiez faite pour aucun autre métier que celui d'actrice.
Ce qui est beau, c'est qu'il disait que j'étais faite pour être actrice, mais que j'étais... Il disait deux choses. Il disait, tu seras une actrice, tu es une actrice et tu es une amoureuse. Et je pense que je n'aurais pas pu faire ce métier si je n'avais pas été amoureuse. C'est-à-dire que, je veux dire par là que il y a beaucoup de fantasmes autour du métier d'acteur, mais beaucoup d'entre nous ont cette nécessité d'avoir des racines, d'être accrochés à la terre, d'être quelque chose de tellurique qui nous permet de résister, parce que c'est pas toujours un métier facile, qui nous permet de résister et de faire le chemin.
Il n'est pas terminé, notre chemin, avec Emmanuel. La balade se poursuit dans un instant, on la retrouve tout de suite.
Europe. L'entretien d'Isabelle Morizet avec son invité arrive à son terme. Dernière minute, en compagnie d'Emmanuel Béart, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Emmanuel Béart, vous avez toujours été d'une grande discrétion et d'une grande pudeur quand il s'agissait d'évoquer votre père, Guy Béart, dont le répertoire compte autant dans le patrimoine de la chanson française que celui d'un Brassens, par exemple. Cette fois-ci, avec le double album hommage que vous lui consacrez, en réunissant 20 artistes majeurs qui s'emparent de ses chansons, eh bien, vous êtes lancé dans une entreprise joyeuse, qui sûrement vous a entraîné plus loin que prévu. En tout cas, je le devine ainsi. L'aventure a duré presque 2 ans. Que vous a-t-elle réservé d'inattendu ?
En écoutant le disque, là, ces derniers temps, je me rends compte que ça me permet de réentendre mon père. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, quand ces chansons me bercent depuis que je suis toute petite, ma mère me les faisait écouter, mon père faisait des bœufs dans le jardin ou au coin de la cheminée. Peut-être que je n'entendais plus les mots. Et le fait que ça passe par d'autres identités, d'autres personnes, d'autres chanteurs, ça m'ouvre aussi à moi la possibilité d'entendre des chansons à nouveau. Et puis, certainement aussi refaire le chemin. On est parti vers le chemin de l'amoureux sur ce disque.
Ouais.
De l'amoureux à perpétuité, qui était mon père, notre père, puisque Ève et moi, on est vraiment très solidaires dans ce projet. Donc, c'est très émouvant de quitter la figure paternelle et de retrouver l'enfant qu'il a été, l'adolescent, l'ingénieur des ponts et chaussées au départ de sa carrière, et puis le chanteur timide, fragile. Donc, on part de cette figure de père paternel, de repère, pour arriver vers l'homme, avec tout ce que cela comporte. Et ça, c'est vraiment une autre façon de regarder.
Il était ingénieur, effectivement.
Oui.
Brillantissime ingénieur des ponts et chaussées. Et tant que ses parents étaient en vie, il n'osait pas, en fait, livrer ses chansons à d'autres artistes ou les interpréter.
Non, il vient d'un milieu assez modeste. Et je pense que son père et sa mère étaient rassurés par le fait que, grâce à son intelligence, il puisse avoir une bourse et faire des études. C'était une façon de dire, voilà, quelque chose de solide pour ses enfants. Ça, c'était le grand-père, mon grand-père, le père Béard. Et mon père a voulu que ses parents soient fiers de lui. Voilà. Et quand ils sont partis, il s'est autorisé à devenir auteur-compositeur, qu'il était déjà en cachette, mais à aller présenter ses chansons à Brassens la première fois.
Alors justement, parlons des chansons de votre père. Les chansons de Guy Béard sont intemporelles, pourtant, vous êtes permis de changer le texte de l'une d'elles pour qu'il colle davantage en fait, à la société actuelle. Cette chanson, c'est « Qu'on est bien ». Alors, moi, je me souviens que quand je l'ai apprise toute petite, c'était « Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé ». Voilà, « Qu'on est bien dans ses bras, là ». Et vous en avez fait « Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe désiré ».
Oui, ce qui laisse la possibilité du sexe opposé aussi.
Oui, bien sûr. Mais c'est une ouverture, effectivement. Parce qu'en fait, une chanson d'amour en 2020 ne peut pas concerner que les hétéros. En fait, c'est une ouverture au monde d'aujourd'hui.
Alors, la vérité, c'est que cette chanson avait été utilisée pour les manifs contre le mariage pour tous. Et oui, elle avait été utilisée et ça m'avait beaucoup choquée. Et quand Thomas Dutronc m'a proposé de venir chanter avec lui « Qu'on est bien », je me suis dit « Alors faisons avancer cette chanson vers les couples d'aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. »
Emmanuel Béard, une fois, une seule fois, paraît-il, vous allez me dire si c'est vrai, une seule fois dans votre vie, vous avez chanté en duo avec votre père, c'était pour son dernier Olympia. Et sur scène, vous aviez entonné ensemble, donc il n'y a plus d'après. Si vous fermez les yeux et que vous revivez la scène, quelles sont les sensations qui vous reviennent? Elle ferme les yeux, Emmanuel, pour répondre.
Je dois être très honnête, c'est une image qui ressemble à un au revoir. C'est une façon de lui dire au revoir. C'est une image plutôt difficile pour moi. Parce que c'était très émouvant, mais mon père a essayé à un moment donné de se lever. Et il avait du mal à se lever. Et ça m'a frappé.
Assis sur scène, c'est ça?
Il chantait assis sur scène. Et puis, de toute façon, quand il m'a dit qu'il faisait l'Olympia, j'étais dans une voiture et on roulait. Et je me suis dit, ah, il nous dit au revoir à tous. Et quand je l'ai rejoint, donc on a chanté la chanson en entier. Et pour me remercier, il a essayé de se lever. Et là, j'ai totalement craqué. Il y a des images, d'ailleurs, que j'ai revues il n'y a pas très longtemps. C'était très émouvant pour moi. C'était brutal, même, on va dire. Je ne veux pas finir sur une note triste, mais...
Alors, justement, on va parler de l'avenir, parce que j'ai une question à vous poser par rapport au théâtre. Mais d'abord, je voudrais savoir, votre papa était un ermite. Est-ce qu'il venait applaudir sa fille au théâtre?
Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, mais pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait une sorte d'agoraphobie. Donc, être enfermé dans un théâtre, ça le faisait étouffer. Donc, il ne m'a pas vu au théâtre. Il m'a vu beaucoup au cinéma, mais au cinéma, il prenait les films. On lui faisait des projections privées. Et au théâtre, mais étrangement, il m'a dit très souvent qu'il était très fier que je sois au théâtre.
Guy Béard, le poète, a donné vie à une femme engagée, militante, combative et en même temps apaisée. Vous êtes toutes ces femmes-là, Emmanuel. Est-ce que vous vous êtes trouvée? Enfin.
Oui, je pense que... Mais ça, c'est le grand, grand privilège de l'âge. Il y a des inconvénients, mais ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de... Enfin, la seule vraie paix, c'est la paix intérieure. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des volcans encore qui, de temps en temps, sont en éruption en moi, mais j'avance vers quelque chose qui ressemblerait à la paix, certainement avec soi-même, la réconciliation, oui.
C'était formidable de se balader ainsi cet après-midi avec vous. Je rappelle que l'album Hommage de Béard à Béard vient de sortir.
Absolument.
Il y aura bien sûr une intégrale.
Au mois de septembre, oui.
Voilà. Et puis, il y aura le documentaire.
Oui.
On ne sait pas encore sur quelle chaîne de télévision.
Non, on ne sait pas sur quelle chaîne de télévision. Alors, on continue à le faire parce qu'on pense que c'est important. Que c'est vraiment, Béart, c'est non seulement une vie passionnante, mais c'est aussi un témoignage de toute une époque qui, moi, me tient très à cœur, mais qui, je crois, fait partie du patrimoine de la chanson française. Donc on continue.
Je vous souhaite un très très bel été, je vous embrasse, à bientôt.
Moi aussi je vous embrasse.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet qui revient le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 en compagnie d'une ancienne avocate reconvertie dans l'humour, Caroline Vigneault, et du créateur Philippe Starck. Bon après-midi avec nous, dans un instant le meilleur de l'équipe Sauvage avec Mathieu Noël. Il est 16h.